Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, je vous invite à ouvrir une première page dans notre Bible. Nous allons faire cette lecture très courte ça n'ira pas très très loin dans la lecture, simplement un verset. Et je vous propose que nous lisions dans le livre de Job. Alors, le livre de Job, au chapitre 14, ce qui fera l'objet de notre réflexion, un verset tout simplement. Job, chapitre 14 et verset 14. Alors voilà ce que il nous est rappelé. Écoutez bien. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Je vais le relire. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Il y a dans ce que nous allons dire, ce que nous allons partager ce soir, deux réalités qui s'entremêlent, la mort et la vie, ou la vie et la mort. Il y a une pathétique interrogation qui est de tout temps à travers toute l'histoire des hommes. Et cette interrogation, je voudrais la placer devant vous parce qu'elle va nous conduire jusqu'au terme de notre réflexion ce soir pour nous amener à prendre en considération que c'est vrai que nous sommes des hommes et nous sommes sur la terre, mais qu'au ciel, il y a Dieu. Et je formulerai cette interrogation, et si la mort n'existait pas ? Je le présente dans ces termes, et si la mort n'existait pas ? On connaîtrait probablement un autre monde. Imaginez-vous ce que pourraient être les sociétés, les civilisations, si véritablement cette question terrible, voire angoissante de la mort, si elle n'avait pas, finalement, de réalité. Je dirais, et je vais dire encore mieux, je vais prolonger la question de cette manière, et si la mort n'existait plus ? Vous avez fait la différence à travers tout simplement la terminaison de la phrase, la non-réalité de la mort. Et s'il y avait une réalité de l'existence de la mort, et qu'à travers le message de l'Évangile, si elle n'existait plus. Et ça, c'est une autre conception des choses, et c'est de cela ce que je voudrais vous parler. Je crois que dans cette dernière proposition, si la mort n'existait plus, c'est l'ouverture à un espoir fou. Oui, parce que habitués naturellement à connaître tout ce que nous connaissons, à travers tout ce qui est lié à la mort, les guerres, la maladie, l'accident, tout simplement, le roulement naturel de l'existence des hommes, c'est-à-dire la vieillesse, et puis naturellement, la mort. Il y aurait quelqu'un quelque part, ou y aurait-il quelque part, finalement, une espérance d'une autre vie? Alors, j'aimerais répondre avec le même auteur que nous avons choisi tout à l'heure, le livre de Job, et je voudrais simplement vous donner à juger cette parole, parce que Job vivait il y a très très longtemps. Peut-être est-il le premier livre de la Bible, avant tous les autres, et il écrivait ceci: « Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites. » Et quand les choses ont été formulées par Job, c'était un homme qui était profondément affligé, malade lui-même, ayant tout perdu dans la vie, dans l'existence. D'ailleurs, on dit pauvre comme Job, Alors ça veut dire ce que veut dire, mais il a laissé quand même une empreinte. Et il dira ceci, « Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre, c'est fait. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées sur le roc. » Elles ont été, eh bien, perpétuées de génération en génération, puisqu'on en parle ce soir. Et il affirme ceci, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. » Ce sont des paroles d'une grande force, d'une grande puissance. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et si je reprends les deux propositions, si la mort n'existait pas et si la mort n'existait plus, alors qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Et je voudrais porter notre méditation ce soir sur trois questions essentielles, trois questions fondamentales. Comment la mort existe-t-elle? Première question. Les causes révélées par la Bible. Alors, c'est vrai que depuis toujours, les hommes, écrivains, philosophes, le monde religieux a disserté sur la question de la mort. Chacun y a amené sa conception. Chacun y a apporté peut-être une piète espérance, mais une chose que c'est un fait. C'est le lot de tous les hommes. Et la question qui est posée, mais la mort, comment la mort existe-t-elle? Eh bien, ça pourrait se résumer, parce que je vais quand même être bref sur les questions, parce qu'on va aller ailleurs. Il y a un ordre et une désobéissance. L'ordre, Genèse, chapitre 2, Dieu dit à l'homme, « Voilà, je te donne le couronnement de toute la création. C'est toi qui es l'être supérieur sur cette création terrestre. Mais je te demande une chose. Dans le jardin où j'étais placé, il y a deux arbres. Il y a l'arbre du bien et du mal, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y a l'arbre de la vie. Et nous voyons que devant l'ordre, l'homme a été emporté vers cette désobéissance. Mais le Nouveau Testament nous en parle. J'aimerais étayer justement cette première comment de la mort. Et nous avons une réponse tout à fait pertinente. C'est dans le livre de Paul aux Romains, au chapitre 5 et au verset 18, il est dit ceci, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. » Le comment ? De même, par un seul acte de justice, la justification, c'est-à-dire le salut, qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Il y a là cause à effet dans les deux sens. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs et sont morts. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Voilà ce que nous dit Paul. Il avait tout à fait analysé le comment en disant, voilà, il y a eu intrusion du mal, donc du péché, qui a donné la mort, une mort physique. Mais nous le verrons tout à l'heure, une mort qui va beaucoup plus loin que le corps de l'homme, mais dans sa dimension morale, et encore plus haut encore dans sa dimension spirituelle. Et il dira, voilà, cette intrusion, un homme a contaminé, a donné finalement ce virus de la mort, mais Dieu a contrecarré finalement, nous pourrions dire la maladie mortelle, par un seul homme qui s'appelle Jésus, on en reparlera, pour que tous ceux qui croient en Jésus puissent être finalement dégagés de cette mort et obtiennent le salut. Ça, c'est le comment. La deuxième interrogation, c'est pourquoi la mort existe-t-elle? Alors, il y a déjà une part de réponse dans ce que nous avons dit. Et là, nous avons, des raisons. Pourquoi? Les raisons touchent la faiblesse de l'homme devant la tentation. Et laquelle tentation, ayant succombé à cette proposition insidieuse, l'homme, tout simplement, a créé une rupture entre lui créature, avec son créateur. Rupture, nous le savons, et la Bible en parle d'une manière suffisante pour que nous comprenions ce que ça veut dire. Et en d'autres termes, ça porte un nom, c'est-à-dire le péché, séparation. Et puis, nous avons également une autre parole de l'apôtre Paul qui nous montre l'étendue de la mort. Et c'est aussi dans Romains chapitre 5, quand il dit ceci, c'est pourquoi, donc c'est une réponse à la première, à la deuxième question, et l'étendue, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Il n'y a aucun homme qui passe à côté, à un moment ou un autre, prématurément ou tardivement, ayant peut-être en effet différentes causes, ou par divers moyens que nous connaissons. Parce que tous ont péché, c'est ce que nous dit Paul. Donc ça c'est l'étendue. Et trois choses, le comment, le pourquoi et l'étendue de la mort. Je reviens à ce que nous disions tout à l'heure, et si la mort n'existait plus? Parce que nous allons aller en profondeur maintenant. Si elle n'existait plus. Et tout chrétien que nous sommes, nous savons que la mort n'existe plus. Je voudrais l'affirmer, au risque peut-être de passer pour un fou, mais elle n'existe plus pour une certaine catégorie d'hommes et de femmes, et ça à travers tous les temps. Je fais un rappel, il s'agit de l'état de l'homme en dehors du salut. Il y a cette partie de cette humanité qui est un état que la Bible appelle un état de perdition, irrémédiable. Et quand bien même les hommes, par leur philosophie, j'y reviens, à travers leur religion, à travers leur escalade pour monter au ciel par toutes sortes de moyens, et en particulier les bonnes œuvres, dans certaines religions chrétiennes, eh bien tout ça est complètement nul et non avenu, parce que c'est complètement inutile. Et tout cela a ouvert la porte, tout simplement, à un phénomène universel, c'est-à-dire de mourir. C'est ce que nous dit finalement l'Écriture sainte, puisque je vous dis que l'explication, eh bien, elle est biblique. Et mourir spirituellement, c'est pas mourir seulement physiquement. Et cette mort spirituelle, parlons-en parce que quelquefois on évite le sujet, mais c'est la cessation de communion, une rupture de communion, de relation normale, nous pourrions dire, harmonieuse, entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Parce que nous avons été créés un être tripartite, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Et vous comprendrez déjà pourquoi Jésus, dans ce que nous avons chanté tout à l'heure, « Je suis né de nouveau », qu'il est nécessaire qu'il y ait une nouvelle naissance. Parce que nous naissons par l'esprit. Nous sommes nés physiquement, mais nous naissons par l'esprit. Et pour rencontrer Dieu, pour renouer une relation avec notre Créateur qui va devenir notre Sauveur, c'est-à-dire qu'il y a d'une part la création et la rédemption, eh bien, c'est dans l'esprit que les choses se font. Jésus l'expliquera à la Samaritaine. Il l'expliquera maintes et maintes fois dans son pèlerinage terrestre pour montrer, eh bien, que les choses sont à ce niveau. Voilà, elles sont à cette dimension. Cette mort-là, puisque nous parlons de la mort spirituelle, eh bien, fait perdre la sensibilité, si je peux trouver le mot adéquat, la sensibilité à l'homme qui devient incapable de communion avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a des idoles, c'est pour ça qu'il y a des faux cultes ou des cultes occultes, c'est pour ça qu'il y a une kyrielle de toutes sortes de démonstrations ou de manifestations où l'homme cherche à s'agripper quelque part pour essayer de découvrir qui est Dieu, pour essayer de se faire déjà même peut-être un paradis sur la terre. C'est l'humanisme. À travers toutes sortes de sacrifices, toutes sortes de dévotions, toutes sortes de choses qui va l'amener, eh bien, essayer de plaire à Dieu en se mortifiant, en se flagellant, enfin, toutes sortes de choses, hein, sur le plan moral comme sur le plan spirituel. C'est une véritable détresse, c'est une véritable misère, et ça n'enlève pas l'angoisse, et ça n'enlève pas les affres de la mort, tout ça. Au contraire, ça ne fait qu'augmenter. Alors, l'homme a perdu sa sensibilité, c'est-à-dire qu'il a perdu cette relation qui le met en contact avec Dieu, et il devient dans l'incapacité d'avoir un dialogue. Il n'entend plus Dieu, il ne comprend plus Dieu, même si Dieu a parlé, même si depuis les temps immémoriaux, Dieu n'a fait que tous les jours, pour chaque homme, multiplier finalement des appels, L'homme ne peut plus entendre, il est sourd, il est aveugle. Il a un cœur qui est un cœur de pierre, comme nous dira le prophète Ézéchiel. Il ne peut plus. La ligne est coupée, on pourrait dire. Et c'est l'absence, c'est la rupture. L'homme est mort pour son créature, pour son créateur. C'est-à-dire que Dieu nous voit spirituellement morts. Il n'y a rien à faire. Si, il y a une chose à faire. C'est la question que nous avons posée, et si la mort n'existait plus? Et la réponse se trouve finalement dans cette interrogation. Vous savez que, si vous voulez en être convaincu, mais je sais que vous en êtes convaincu parce que vous connaissez quand même votre Bible, dans le livre des Éphésiens, écoutez, c'est Paul qui déclare ceci, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » C'est un grand texte du livre des Éphésiens, dans lesquels vous marchiez autrefois, ça veut dire qu'il y a eu des temps nouveaux, hein, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train ou le courant de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agite maintenant les fils de la rébellion. Nous étions tous de ce nombre, dira Paul. Il se comprend dans le nombre de tous ceux qui autrefois, bien qu'extrêmement religieux, juifs, israélites comme ils l'étaient, zélés comme ils l'étaient, consacrés à son Dieu qui était le Dieu d'Israël, il était quand même perdu. Et pourtant, l'esprit humain, en raison de cette rupture, est devenu étranger, obscurci à la dimension spirituelle. Et c'est encore Paul qui ajoutera ceci au chapitre 4, par exemple, et il dira, naturellement, cette parole que nous connaissons, quand il parlera des hommes, il dira, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sentiment de relation, de relationnel ou de communion avec Dieu. En raison, finalement, de ce péché qui a entraîné l'homme à la mort, une mort physique, une mort morale et une mort spirituelle. Voilà pour ce qui est peut-être dit du diagnostic de la maladie humaine qu'est le péché. Mais nous allons voir que la Bible nous renseigne sur autre chose maintenant. Il y a ce que j'ai appelé moi-même une transition, écoutez bien comment je vais qualifier les choses, sur-naturelle, c'est-à-dire au-dessus du naturel. Une transition surnaturelle du fini temporel à l'infini éternel. Alors c'est peut-être des mots qui sont pas très faciles à comprendre, mais c'est ça finalement. Ça devrait pas être trop compliqué, mais je vais l'expliquer maintenant. Il y a comme un passage, comme Paul et puis Jean, l'apôtre, l'expliquera également d'une manière peut-être beaucoup plus simple, passer de la mort à la vie. Dans les lois naturelles de du monde autour de nous, on va de la vie à la mort. Voilà, ça c'est ce qui est connu. Mais il y a ce que il nous est enseigné ce soir, une inversion dans ce processus. C'est que pour nous qui croyons, pour les hommes qui croient, qui mettent leur confiance dans le salut qu'il leur propose à travers Jésus-Christ, les choses sont inversées. Nous passons de la mort à la vie. Et ce passage de la mort à la vie commence par cette rencontre avec Jésus, cette foi en Jésus, cette conversion en Jésus et cette nouvelle naissance. Nous sommes déjà en chemin. Vraisemblablement, si le Seigneur n'est pas revenu, nous passerons par la mort physique. À moins que, la Bible l'explique, mais depuis toujours, nos pères, nos ancêtres, nous passons par cette mort physique parce que c'est inéluctable, c'est comme ça. Mais il y a une différence qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il y a un avant et un après dans tout cela. Et il y a cette transition surnaturelle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui laisse supposer que, et si la mort était au passé, si la mort est vaincue par cette antidote, c'est-à-dire ce contre-poison, ce remède, ce traitement que Dieu a donné à l'humanité et qui est universel, si véritablement, à ce moment-là, si cette mort était vaincue par la grâce au moyen de la foi, c'est la seule chose qui est appropriée à tous les hommes, de tous les temps, de toute nation, de toute langue, de toute couleur, qui est universelle parce que c'est à la portée de tout homme, riche, pauvre, savant ou ignorant. C'est tout simplement la foi dans la personne de Jésus qui nous permet de recevoir cette grâce. C'est une grâce, c'est un cadeau, c'est une faveur. Ça va au-delà de toute considération humaine, philosophique, religieuse, où l'homme a toujours cherché à faire les choses pour plaire à Dieu, pour, eh bien là, connaître finalement le chemin de retour vers le paradis perdu, en quelque sorte. Et qu'est-ce que nous dit finalement, eh bien, l'Écriture sainte sur la destinée? Oui, c'est un mot qui, quelquefois, sonne un petit peu bizarrement à nos oreilles, la destinée. Il y a le psalmiste, je ne sais plus dans quel passage, qui nous dit « Mais, ô Dieu, mes destinées sont entre tes mains. » Et là, dans cette phrase, il y a véritablement le témoignage d'un abandon de l'homme au plan de Dieu dans ses conditions qui lui permet finalement eh bien, de voir qu'il y a autre chose que les réalités les plus tristes et les plus morbides qui existent dans notre monde. Alors je vais me mettre en parallèle maintenant brièvement la destinée de l'homme dans le temps présent, ça nous intéresse nous pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire dans maintenant, dans notre monde d'aujourd'hui. Et je vais prendre la formule à plusieurs reprises, je vais la citer au moins une dizaine ou une quinzaine de fois maintenant. Et c'est véritablement le cœur même de cette répétition que nous trouvons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, en Christ, en Jésus-Christ, la foi en Jésus. Ça revient partout dans l'épître aux Éphésiens. Alors on va cheminer un petit peu. En Christ, parce que l'homme croit en Jésus, l'homme reçoit le pardon de ses péchés premièrement. Dans Romains chapitre 8, verset 1er, je le cite de mémoire, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Vous avez bien entendu? Tout ce que les religions, tout ce que les philosophies ont essayé de décortiquer, de comprendre, d'analyser, et peut-être même d'essayer de trouver des substituts et des remèdes, ça ne marche pas. La seule chose qui est déclarée dans l'Écriture sainte, c'est que vous et moi, à partir du moment, et tous ceux qui peuvent entendre finalement ce message biblique, tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, il faut se le dire, et ne pas se laisser accuser, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Première étape. Deuxième chose, c'est qu'en Jésus-Christ, dans ma foi en Jésus-Christ, ou la foi en Jésus-Christ, l'homme retrouve la paix avec Dieu. Pardon ? La paix. Puisque nous avons parlé tout à l'heure qu'il y avait comme une rupture, que l'homme était devenu ennemi de Dieu par sa faute, par son péché, par sa désobéissance. Maintenant, les choses se retrouvent dans le bon sens. C'est qu'il y a un lien qui a été fait. Il y a comme un plénipotentiaire. Vous savez, c'est celui qui fait des négociations pour rapprocher deux camps ennemis. Qui fait qu'aujourd'hui, à travers la personne de Jésus, nous pouvons retourner à Dieu. Et vous connaissez naturellement ce que Jésus dira d'une manière magistrale, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Ça, c'est une affirmation que nous pouvons mettre justement au cœur de cette deuxième proposition. On continue. « En Christ, l'homme a un libre accès auprès du Père. » Je dis pas non seulement auprès de Dieu. Vous savez que dans le temps, dans l'Ancienne Alliance, la foi juive faisait qu'il y avait toujours là tout un... Il y avait un monde de prêtres, de sacrificateurs, c'est-à-dire un sacerdoce. On ne pouvait pas rentrer en communion avec Dieu que par passer par des intermédiaires. Remarquez, vous allez me dire, la religion chrétienne aujourd'hui, celle qui a abandonné le sens de l'évangile, c'est que les hommes et les hommes de la religion ont mis des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes entre Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une église souveraine, il y a ceci et cela, il y a des prêtres, il y a un clergé, il y a toutes sortes de choses. Hein, et il faut toujours passer par l'homme pour arriver à Dieu. Jésus a dit, mais nul ne vient au Père que par moi. La barrière tombe à ce moment-là. Et nous avons aujourd'hui accès auprès de Dieu librement. C'est ça, c'est la liberté que nous pouvons avoir. Nous ne sommes pas tenus de prier dans un lieu que l'on appellerait une église ou tout simplement ce que nous sommes en train. Nous pouvons faire tous les jours à n'importe quelle heure et à n'importe quel endroit. Cette liberté qui nous est donnée. Ce salut nous donne finalement cet affranchissement. Libre accès. Liberté, nous dit l'Écriture, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Vous avez remarqué avec moi, il y a le mot foi dedans. Hein, avec confiance. Pas avec crainte, comme dans l'Ancien Testament, où les hommes devait prendre mille et une précautions. Il ne pouvait pas s'approcher du sanctuaire sans s'être purifié, sans s'être lavé, sans avoir fait toutes sortes d'ablutions, toutes sortes de choses, toutes sortes de rituels. Les religions chrétiennes qui ont perdu le sens évangélique, eh bien, là, il faut passer par un confessionnal, il faut passer par tel ou tel médiateur ou intermédiaire ou auxiliaire. Maintenant, on y va directement puisque nous sommes pardonnés par le sang de Jésus. C'est la liberté. En toute confiance. Je continue. En Christ, l'homme a tout pleinement en lui. Et ça, ça touche à notre, finalement, notre vie, notre existence quotidienne. Jésus nous dira, pour bien montrer qu'il s'intéresse à notre vie dans ses moindres détails, donne-nous, il nous a appris à dire, donne-nous notre pain quotidien. Et avec ce pain quotidien, c'est tout, la santé, la famille, une bénédiction de tel ou tel, à tel ou tel niveau. C'est ça, nous avons tout pleinement si nous savons que nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs. Parce que c'est la plénitude de la foi, tout simplement. Encore un peu plus loin, en Christ, l'homme découvre le pourquoi et le sens de son existence ici-bas. Je vous ai dit tout à l'heure que l'homme était étranger à la vie de Dieu. Il n'avait plus l'intelligence des choses spirituelles. Il était descendu si bas qu'il s'est mis à adorer des idoles. Il s'est donné des faux cultes. Il s'est donné toutes sortes de dieux et de sous-dieux ou de, je ne sais quoi, des demi-dieux. Il n'avait plus cette intelligence. Parce que, comme il nous est dit, mais Dieu est esprit et il veut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, en vérité. Et non pas dans des choses bassement terrestres que l'on sent, que l'on touche, que l'on entend, que, voilà, comme beaucoup de religions le font. C'est en esprit. Et l'homme a retrouvé le pourquoi et le sens. Et je vais vous donner seulement un exemple, c'est dans Éphésiens. Il nous est dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes ou les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été créés en Jésus-Christ. C'est une nouvelle création, c'est une nouvelle créature que nous sommes devenus par la nouvelle naissance, par cette relation qui a repris, créée en Jésus-Christ. C'est en lui, pour toutes sortes de choses. Et ça, ça donne un sens à l'existence. Chacun d'entre nous, nous avons une vision des choses. Moi, j'en ai une pour moi-même. Mais chacun, vous en avez une. C'est la perspective de la vie éternelle, de l'espérance du retour de Jésus-Christ, et déjà ici-bas, de pouvoir le servir. Nous sommes motivés. Nous avons quand même quelque chose au fond du cœur, et ça nous donne une raison de vivre. Nous savons que, comme le dit la philosophie humaine, mangeons et buvons parce que demain nous mourrons, mais ce n'est pas ça pour nous. Bien sûr que nous mangeons, bien sûr que nous buvons, bien sûr que nous travaillons, bien sûr que nous pouvons avoir mille et une choses dans notre vie. Mais la priorité, la prééminence est donnée à Jésus, parce que nous avons une forte espérance à l'intérieur de nous-mêmes, tout simplement. En Christ, également, et ça fait partie justement de cette motivation à le servir, nous sommes devenus des témoins. Des témoins ou des ambassadeurs de Jésus pour annoncer un royaume. C'est notre vocation de missionnaire ou d'évangéliste. Où nous parlons autour de nous parce que ce que nous avons reçu, nous voulons le faire bénéficier à tous ceux qui ne le connaissent pas, tous ceux qui n'ont pas reçu encore, qui sont encore dans l'ignorance, qui sont encore dans leur misère, qui sont sans espérance, qui sont là dans l'angoisse, peut-être précisément de la mort. Eh oui. Alors nous sommes devenus des ambassadeurs. L'homme, également Jésus-Christ, n'est plus jamais seul, puisque Jésus nous le dit. Et vous savez ce qu'il nous dit ? Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est aussi une assurance. C'est pour le temps présent, ça. C'est pour notre vie d'homme. Notre vie de représentation d'un royaume dans lequel, eh bien, nos noms y sont inscrits et nous sommes déjà nés dans ce royaume. Nous sommes vivants dans ce royaume. Mais du royaume de Dieu dans notre cœur, qui est en préparation, deviendra le royaume des cieux. Et c'est la deuxième proposition que je voulais aborder avec vous. C'est-à-dire, c'est ensuite la destinée de l'homme dans les temps à venir. Maintenant et les temps à venir, qu'est-ce que nous apporte le salut? Quelle est véritablement la motivation qui est en nous pour espérer dans un monde que nous ne voyons pas, un monde dans lequel nous n'avons qu'une vague idée, sinon ce que peut nous apporter de renseignement, eh bien la lecture de la Bible. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ, et nous sommes sauvés pour une perspective qui n'est pas de vivre notre vie chrétienne et de mourir, mais de vivre notre vie chrétienne parce que nous sommes vivants déjà, et que cette vie va se perpétuer, même au travers le voile de la mort qui disparaîtra, mais dans un autre monde, dans une autre dimension. Sauvé en Jésus-Christ, l'homme sera élevé avec l'Église. C'est ce que nous dit le livre de l'Apocalypse ou les Thessaloniciens. Oui, ça c'est notre espérance. L'espérance des derniers temps. Peut-être réalisée dans notre temps ou réalisée plus tard. Beaucoup l'ont entendu dans les générations passées, ne l'ont pas vu. Mais néanmoins, le principe même de la semence de vie est déjà dans notre cœur. Et, comme Jésus nous laisse entendre, c'est que, alors que nous avons vécu tout notre passage sur la terre avec un cœur infirme, avec un corps infirme, malade, à travers toutes sortes de vicissitudes, toutes sortes de chagrins et de peines, il nous est dit que dans ce monde-là, eh bien, nous serons revêtus d'un cœur, un corps glorieux. C'est la gloire dont je suis en train de vous parler maintenant. Oui. Paul en parlera sans ces termes, il dira, mais il parlera de son corps d'humiliation, Paul. Et nous sommes aujourd'hui dans un corps d'humiliation parce que nous souffrons. Nous avons toutes sortes, mille et une peines, mais il faut savoir que nous, les chrétiens, eh bien, nous rentrerons dans une dimension où tout ça n'existera plus. Un corps lumineux, un corps glorieux, un corps où il n'y aura ni rides, ni taches, rien de ce que nous connaissons ici-bas. L'homme qui est sans espérance va à la corruption, c'est-à-dire poussière, et retourne à la poussière. Mais nous savons que c'est pas le corps qui est le plus important. C'est l'identité, c'est la personnalité, c'est ce que contient notre âme et notre esprit, que Dieu est en train de préparer finalement pour cette dimension. Alors, nous avons également dans cette destination finale et éternelle en Christ, l'homme participera aux noces de l'agneau. Vous savez que ça revient très souvent, l'histoire de la joie, l'histoire du festin, l'histoire du bonheur. C'est enfin, noces de l'agneau, c'est sous cette naturellement présentation qui nous est donnée. Et s'il y a des joies sur la terre, il y en aura une qui sera éternelle de l'autre côté, qui est l'emblème finalement eh bien, de cette réunion de l'Église que l'on appelle l'épouse ou la fiancée avec Jésus, finalement l'époux. C'est le livre des cantiques si vous voulez aller par là, en quelque sorte. En Christ, pour sa destination finale, l'homme, l'humanité croyante, l'humanité sauvée et rachetée, jouera un rôle prépondérant dans l'histoire finale de ce qui s'est passé depuis le début. Dans le millénium, par exemple, à travers toutes sortes de choses, où il nous est bien mis d'une manière tout à fait caractérisée, c'est qu'en Christ, l'homme régnera avec Jésus. Nous qui ne sommes pas des anges, nous qui ne sommes que poussière, grains de poussière sur cette terre, nous deviendrons des rois. Ouais. Nous présiderons aux destinées d'un monde nouveau, dont véritablement Jésus sera le temple et il sera aussi eh bien, le roi. Règnera et nous vivrons éternellement. C'est pour ça que je vous ai dit que tout à l'heure, si la mort n'existait plus, mais la mort n'existe plus déjà pour nous. C'est notre foi qui le saisit. C'est par la foi. Et c'est ce qui fait qu'un chrétien peut passer 1000 morts sur cette terre, mais il va persévérer, il va pas se décourager, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de meilleur de l'autre côté. Il y a une espérance. Il y a une espérance extraordinaire. Il vivra éternellement. J'ai la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle si vous croyez en Jésus-Christ. Je suis affirmatif ce soir, parce que nous en avons besoin de l'entendre. Dans un monde où tout se dissipe, tout se délite, tout s'en va un petit peu là, un peu de tous les côtés, hein. Tout est brouillé, les repères sont complètement, brouillés. Hein. Il y a comme une opacité sur notre monde. Mais je crois que le chrétien doit garder, conserver vif ce regard. En Christ, l'homme ne connaîtra plus ni le mal ni la souffrance. Il nous est dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21 que Dieu essuiera toute larme des yeux. Il n'y aura plus ni mort, il n'y aura plus la maladie, il n'y aura plus le mal, il n'y aura plus le péché, il n'y aura plus le méchant, il n'y aura plus ceci, il n'y aura plus cela. Vous pouvez le constater et le retrouver dans le livre de l'Apocalypse. Tout cela sera fini. Nous n'aurons même plus aucune notion de ce que pourra être le mal, ça n'existera plus. Mais par contre, nous aurons cette vision et nous ne serons même pas dans une vision, nous vivrons dans le bien permanent et éternel. Ça sera quelque chose, imaginez-vous. On saura même plus ce que c'est que le mal. On n'en parlera plus parce que ça sera un mot qui sera exclu. Ça sera un mot qui n'aura plus cours, un mot qui sera banni. Tout simplement, il essuiera toute larme. dans cet autre monde, le Seigneur viendra et Dieu nous conduira dans votre foi en Jésus-Christ. Il fera de nous des hommes pour la gloire. Et la gloire est sous l'emblème de trois couronnes. Vous avez vu dans la Bible qu'il y a trois couronnes pour ceux qui sont rachetés, pour ceux qui sont sauvés. Il y a la couronne de la vie qui sera donnée à ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin, qui auront gardé la foi envers et contre tout, dans les bons et dans les mauvais moments, à travers les persécutions, à travers toutes les tempêtes de l'existence. Il nous est dit qu'il recevra la couronne de vie. Ce ne sera pas une couronne de laurier qui se fane, comme les sportifs ou les glorieux héros, lorsqu'ils reviennent de guerre, on leur met des couronnes, mais c'est fane. C'est des couronnes de laurier, vous comprenez? Et ça, quelques jours après, il ne reste plus rien du tout. Tout ça aura disparu, mais nous recevrons une couronne de vie, parce que nous aurons persévéré jusqu'au bout. Il y a également la couronne de la justice. Et la couronne de la justice, ça sera finalement cette détermination pour les croyants rachetés, pour l'Église qui aurait été rachetée, ça sera cette détermination pour l'amour de la vérité. Justice, ça s'accorde avec vérité. Normalement, dans les tribunaux des hommes, la justice se prononce sur la vérité. Pas toujours le cas, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est le principe, finalement. Et tous ceux qui auront aimé la vérité recevra une couronne de justice. Par contre, il nous est dit dans Thessaloniciens que Dieu envoie un esprit d'égarement pour tous ceux qui n'ont pas aimé la vérité. C'est le contraire. Parce qu'ils n'ont pas pris part, finalement, à avoir cette affection pour la vérité. Quand Jésus est la vérité, on comprend ce que ça veut dire. Et puis, il y a la couronne de gloire également qui nous est présentée. La couronne de gloire, elle sera réservée à tous ceux qui n'ont pas cherché la gloire des hommes, qui n'auront pas cherché à se glorifier, qui n'auront pas cherché à être les premiers, à écraser les autres, à vouloir conquérir le monde, à vouloir s'accaparer peut-être de toutes les richesses en laissant les autres peut-être sans rien. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Mais cette couronne de gloire sera donnée à tous ceux et toutes celles qui, passant par l'humiliation, rentreront dans la gloire. Il recevra donc une couronne de gloire. Mais c'est l'exemple de Jésus. Jésus est venu une première fois dans l'humiliation jusqu'à la crucifixion. Et quand il est monté au ciel glorifié. Il revient une deuxième fois, il reviendra glorieux pour que nous puissions, après avoir vécu une vie d'humiliation, et je pense à tous les chrétiens qui ont été persécutés, tous ceux qui sont persécutés encore, tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui ont été martyrs, tous ceux qui ont connu des choses épouvantables dans leur existence, tous ceux qui sont passés peut-être avec la foi en Jésus-Christ dans les camps de concentration, tous ceux qui ont été humiliés, mais d'une manière abominable par les hommes. Alors à ce moment-là, ils recevront une couronne de gloire, parce qu'ils ont été humiliés, et de l'autre côté, nous serons glorifiés. La couronne de gloire. La volonté de Dieu, elle nous est donnée d'une manière très simple, et je la restitue tout simplement à travers cette parole que vous connaissez dans Ézéchiel, chapitre 18 et verset 32, quand il est dit ces paroles. « Car, dit Dieu, ce que je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, éternel, convertissez-vous et vivez. » Vous avez la clé qui ouvre la porte, c'est la conversion en Jésus-Christ, c'est la foi en Jésus-Christ, c'est l'acceptation du salut en Jésus-Christ, c'est l'appropriation de la grâce qui nous est faite, du cadeau, de la faveur qui nous a été donnée. Je ne veux pas que le méchant meure, mais je veux qu'il vive. Voilà cette vie. Et notre choix, il est formulé tout simplement à travers un texte que vous connaissez bien, c'est dans Deutéronome, vous y attendez probablement, quand il est dit ceci au chapitre 30 et au verset 15. Écoutez, c'est Moïse qui parle de la part de Dieu à Israël. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix. » On est en train de faire le chemin inverse de la chute dans l'Éden, pour obéir à sa voix, tout simplement. Pour t'attacher à lui, non pas la séparation et la rupture dont nous avons parlé, car de tout cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Voilà, la boucle est bouclée, tout simplement. Et puis il y a une dernière chose que je voudrais dire. Quand il nous est dit à un moment donné, que Jésus est venu dans la chair pour délivrer tous ceux qui sont dans la servitude et qui sont dans la crainte de la mort. Hébreux, livre des Hébreux. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que notre confiance en Jésus est inaltérable, que nous allons avoir à défendre notre foi et notre confiance qui nous sauve en Jésus-Christ, et qu'aujourd'hui, pour tous ceux qui sont dans la crainte de la mort, ils n'ont plus à avoir peur. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne va pas reprendre les choses, parce qu'il ne s'agit plus « et si la mort n'existait pas ?» Mais aujourd'hui, nous allons dire « mais si la mort n'existait plus ?» Et la mort n'existe plus pour tous ceux qui ont fait ce cheminement, à travers, finalement, eh bien, ce qui nous est donné. Alors, je crois que tout le monde répondra positivement, mais il faut s'en souvenir. Je crois que ça ne vous concerne pas trop, parce que vous avez, vous, finalement, eh bien, fait le choix. Mais voulons-nous vivre, ou est-ce que nous voulons mourir? Eh bien, si nous voulons vivre, les choses nous sont dites, tout simplement. Et si l'homme pouvait revivre quand il est mort, eh bien, moi, j'affirme que l'homme est capable de revivre quand il est mort. Je terminerai avec cette dernière parole de Jésus à Marthe ou à Marie. Il est dit ceci, que celui qui vit et qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous donne sa grâce. C'est peut-être doctrinal, c'est peut-être finalement, eh bien, pas toujours très simple à dire et à parler, mais une chose qui est certaine, c'est quand même la vérité de la parole de Dieu. Nous allons prier quelques instants si vous le voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Parce que pour nous, Seigneur, la question ne se pose pas « et si la mort n'existait pas ?» puisque nous pouvons affirmer que la mort n'existe plus. Puisqu'il y a ces trois dimensions par lesquelles tu as créé l'homme, le corps, dans un corps, dans son âme et dans son esprit. Et nous croyons qu'aujourd'hui, Seigneur, eh bien, nous avons bien compris qu'il y a un retour vers notre Dieu, celui qui est notre Créateur. Mais aujourd'hui, Seigneur, l'heure n'est pas à la création, l'heure est à une nouvelle création. L'heure est à considérez, Seigneur, que nous pouvons renaître, que nous pouvons naître de nouveau, que nous pouvons revivre et nous préparer, Seigneur, à une vie éternelle. Je te demande de bénir ta parole. Je te demande de la bénir non pas selon le timbre de la voix du prédicateur, non pas derrière la phraseologie, Seigneur, employée, non pas avec les mots, Seigneur, qui peuvent être proposés, Seigneur, à notre réflexion, mais je te demande, Seigneur, que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu convainc de péché, de justice et de jugement, et amène des hommes qui aiment la vérité, des hommes qui aiment la vérité, parce que tu les prépares à recevoir une couronne tout simplement de justice. Tu les prépares à recevoir une couronne de gloire pour passer de l'humiliation, en effet, à ce monde céleste et glorieux, et tu nous donnes une couronne de vie, parce que nous voulons être de ceux qui persévéreront jusqu'au bout pour obtenir la réalisation pleine et entière de ce royaume dont nous serons des princes et des rois et pour régner avec Jésus-Christ pour l'éternité. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-sanazaire.fr.